Radio Grand Ciel présente Art et Histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Patrick Néolas, que j'ai rencontré au salon littéraire de Nogent-le-Rotrou. Il présentait « Vers le ciel », un ouvrage aux éditions Percée. J'ai voulu en savoir plus sur cette première croisade, c'est pourquoi je le remercie d'avoir accepté mon invitation. Patrick Néolas, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, vous êtes principale d'un collège. Peut-être pouvez-vous nous parler un petit peu de votre occupation et aussi, j'aimerais savoir comment vous est venue cette idée d'écrire sur cette première croisade. Première croisade qu'on connaît un peu moins que les autres. Et moi, j'ai beaucoup apprécié justement votre ouvrage.
Actuellement, je suis principale du collège d'Auneau.
Oui.
Et auparavant, j'étais instituteur et professeur d'histoire.
Oui, donc déjà historien.
Oui, historien et plutôt axé sur la Deuxième Guerre mondiale et la Résistance.
Ah oui.
Mais il s'est trouvé qu'à un moment de ma vie, j'ai travaillé près de Narbonne. J'habitais dans un petit village.
Et vous étiez instituteur, là ?
J'étais pas instituteur, j'étais professeur d'histoire, mais oui. J'aimais beaucoup cette région-là.
Oui. Votre nom, déjà, montre que vous êtes un petit peu de cette région.
Voilà, je suis un peu de cette région-là et j'ai encore des attaches.
Très bien.
J'ai toujours aimé cette période. Il s'est trouvé, dans ma famille, d'abord, on est catholiques pratiquants. Et diverses expériences et diverses missions au Proche et au Moyen-Orient m'ont amené à réfléchir à cette époque-là.
Oui.
Je me suis aperçu que le mot croisade était mal vécu.
Oui.
Au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Sur ce même village, il y avait également la présence d'un donjon. À Narbonne, il y a également un archevêché important. Mmh. Et petit à petit, l'idée m'est venue de travailler sur ce sujet-là. Voilà. C'est parti de ces divers épisodes, de ces diverses expériences.
Et vous avez travaillé dans une bibliothèque, avec des amis, comment ça s'est passé ?
Non, je travaillais tout seul.
Tout seul.
Avec des documents, avec des livres, évidemment, d'histoire.
Bien sûr.
Et puis également mes souvenirs, parce que de Narbonne jusqu'à Jérusalem, il y a une grande partie de ce périple que j'ai accompli. Alors, pas à pied ni à cheval, hein, comme les pèlerins, mais j'ai parcouru une grande partie...
À pied, quand même.
Une partie à pied, puis une partie en véhicule.
En bicyclette
En moto.
En moto.
Également, préciser que lors d'une mission au Moyen-Orient, j'ai pu croiser des chrétiens d'Orient.
Alors, vous aviez cette mission en tant que... professeur
Non, c'était une mission un peu particulière.
Oui.
J'en dirai pas plus sur le sujet.
Et alors, là, vous êtes allé où exactement ?
Je suis allé à Bagdad, mm-hmm. Et puis également dans les monastères qui se trouvaient à côté de Mossoul.
Ah oui.
Donc j'ai pu rencontrer des gens, des bâtiments qui malheureusement ont peut-être disparu aujourd'hui.
Alors c'est là que vous avez commencé à écrire. Non, vous aviez pris des documents, j'imagine.
Non, mais j'ai réfléchi parce que je me suis aperçu que pour les musulmans, ça avait été considéré comme une invasion barbare.
Ben oui.
Et sans faire de politique internationale, parce que je n'ai pas à ce niveau-là, le mot « crusade » a été très mal vécu par les musulmans quand l'administration américaine a décidé, contrairement à l'administration française, a décidé de faire la guerre en Irak.
Oui, bien sûr.
Donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème sur ce terme, croisade.
Mm-hmm.
Et effectivement, c'est un moment difficile pour les musulmans du Proche-Orient, mais c'était aussi un moment d'échange.
Alors, quand vous dites moment d'échange, qu'est-ce que vous voulez entendre par là ?
Ben, passer les premières années de conquête...
Mm-hmm.
Il s'est avéré qu'il y a eu des échanges commerciaux, des échanges épistolaires, et aussi des échanges religieux,
oui.
entre musulmans et chrétiens. Musulmans et chrétiens tolérants, sachant que de chaque côté Il y avait des musulmans intégristes et des chrétiens intégristes qui ont tout fait pour que les relations ne soient pas apaisées.
Et oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, donc déjà, en fait, vous êtes parti du quotidien de notre époque.
Oui.
C'est cela qui vous a inspiré.
Oui.
Oui, ça c'est très important. Alors justement, peut-être on en vient à ce récit de cette première croisade. D'abord, peut-être parlez-nous des personnages, les premiers personnages que vous avez mis dans cette première croisade.
Donc tout tourne autour de deux jeunes gens qui s'appellent Guillaume. Alors Guillaume en occitan, en français ça veut dire Guillaume.
Oui.
Et Ancenis, alors j'ai pris Ancenis qui est un prénom plutôt normand. Alors dans le cadre du roman, on voit petit à petit les personnages évoluer et le lien qu'il y a entre ces deux personnages. Ces deux personnages ne sont pas frères au début du roman. Alors je ne vais pas vous déflorer toute l'histoire,
non.
Mais ils ont des liens très très forts entre eux. Et puis ces deux enfants qui sont sous la houlette d'un bon père qui s'appelle Johan. Et qui est le curé de ce petit village ? Johan, qui est un prêtre tolérant, ouvert, et qui essaie de leur ouvrir les yeux sur le monde.
Exactement. Alors, leur nom,
donc,
est-ce qu'on va les rencontrer souvent ?
Alors, Guillaume, c'est un grand garçon plutôt brun et assez corpulent, enfin, je veux dire, assez musclé pour son âge. Et Ancenis, un garçon blondiné aux yeux bleus, un peu plus fin. Est plutôt très rusé.
Oui. Alors, page 15, on voit un peu les personnages, je lis. « Frères et sœurs, l'heure est grave. Des malheurs autant maléfiques que les orages s'amoncellent sur la chrétienté. Ce sont des présages divins. Dieu a besoin de nous. Dans le ciel, des signes sont apparus. Les étoiles se meuvent en tous sens. Notre Jérusalem, là où repose le Christ, nous est interdite de pèlerinage. Pire, son tombeau dans le Saint-Sépulcre a été profané. Vengeance, vengeance. Ce ne sont pas des morts ou des juifs que nous connaissons bien, ce sont des Turcs impies, féroces et blasphémateurs qui commettent ces outrages. Toute la chrétienté est en émoi. Du pape aux rois et empereurs, nous demande de réagir pour défendre notre foi et notre Dieu. La paix de Dieu, la trêve de Dieu, mais mieux encore, outre ce saint pèlerinage, la récompense divine s'accompagne aussi de la rémission de tous vos péchés. Des chrétiens innombrables, des serviteurs de Dieu, moines, sœurs ou prêtres, ont été oxys, torturés, voire crucifiés par ces infidèles. Nous devons aider nos frères d'Orient, sauver Constantinople, libérer Antioche et délivrer Jérusalem. Dieu le veut, Dieu le veut. Et le Seigneur est avec nous. Alors, ce passage est très intéressant. Pouvez-vous un peu l'expliquer à nos auditeurs ?
Il se trouve que à la fin du XIe siècle, Jérusalem a été pris par les Turcs. Et contrairement aux musulmans qui étaient présents dans cette zone et qui avaient chassé les Byzantins de Constantinople, la tolérance n'était pas de mise. Donc il y a eu destruction du Saint-Sépulcre, exécution d'un certain nombre de religieux chrétiens, et donc un fanatisme important, momentané. De plus, depuis, je dirais, plusieurs années, voire un ou deux siècles, les Byzantins sont sur la défensive par rapport à des invasions à la fois au nord avec les Bulgares, mais également en Palestine avec ces fameux Turcs. Et donc l'empereur de Constantinople, Alexis Ier, demande une aide assez tôt, dans les années 1060, 1070, 1080. Et puis il envoie effectivement une émissaire, voir Urbain II, qui est le nouveau pape. Et ce nouveau pape pense qu'il faut à la fois aider les chrétiens d'Orient et Constantinople, mais également aider les pèlerins en délivrant Jérusalem, en permettant de nouveau des pèlerinages. À cela s'ajoutent des questions de politique intérieure européenne et d'équilibre entre l'Empire du Saint-Empire germanique et puis le pape. Et puis également la montée en puissance de la royauté capétienne et puis de la royauté anglaise avec Guillaume le Conquérant. Donc Urbain pense qu'il faut à la fois donner à l'intérieur de l'Europe une vision chrétienne. Il va tout faire pour qu'il y ait la fameuse paix de Dieu ou trêve de Dieu. Hein. C'est-à-dire ne pas combattre certains jours de la semaine liés à l'écriture, je pense au vendredi, samedi, dimanche. Limiter les conflits. Et puis, il se dit, avec ses conseillers, peut-être on pourrait apaiser ces conflits internes si on prenait une partie de notre chevalerie et qu'on lui donnait un but. Et ce but, ce sera Jérusalem.
Voilà. Voilà. Délivrer le tombeau du Christ.
Délivrer le tombeau du Christ. Alors, le texte est lui avec emphase. Hein. Mmh. Ce que reprend le père Joanne dans sa petite église de village, c'est ce qu'Urbain II a déclaré à Clermont-Ferrand lors du concile.
Oui.
Ce pape, malheureusement, ne peut pas s'appuyer sur les rois. Roi de France, qui est victime, je dirais, de sa vie privée et qui n'est pas quelqu'un, je dirais, de vrai chrétien. Donc, on ne peut pas s'appuyer
c'est
sur
compliqué,
lui.
Compliqué, oui.
Empereur germanique qui n'a pas du tout envie d'aider le pape. Et puis, en Angleterre, les descendants de Guillaume qui sont aussi en délicatesse avec l'Église par rapport à leur vie privée. Par contre, il va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de barons chrétiens qui vont, pour diverses raisons, décider de participer à cette aventure. Alors, celui que je connais bien et que je défends, c'est notre Raymond de Toulouse.
Et voilà.
Alors, notre comte Raymond de Toulouse, il a participé à la reconquête en Espagne contre les Maures avec Alphonse XIII de Castille. Voilà, avec Alphonse de Castille. Et donc, lui, il est partant. Et puis, il se trouve qu'Urbain II est sur ses terres, pas sur ses terres. Bon. Donc, Raymond est partant. Il veut continuer cette aventure. Effectivement, il y a une idée derrière. C'est contrebalancer la puissance capétienne du nord de la France. D'autres personnages vont se joindre dans la croisade. Alors, le plus célèbre qu'on apprend quand on était à l'école primaire, c'était Godefroy de Bouillon. Alors, oui. Godefroy de Bouillon, lui, c'est un Belge. Et avec ses amis lorrains, il va décider de partir, alors lui, plutôt du nord de la France. La grande puissance qui vient de conquérir l'Angleterre, c'est les Normands. Et les Normands vont aussi participer à cette croisade. Donc on a un troisième départ, en prenant au passage le frère du roi de France. Et puis il y a un quatrième, c'est que les Normands sont aussi établis en Italie. Alors, ce sont les concurrents depuis des années de l'Empire de Constantinople, des Byzantins.
Mais ils sont même établis en Sicile.
Voilà, ils sont en Sicile et c'est la quatrième partie, c'est le quatrième départ.
Bien sûr, oui.
Voilà. Donc c'est plutôt une croisade de barons. Et puis il y a les gens.
C'est ça.
Les gens, d'ailleurs le menu peuple. Ouais. Je dis ça sans aucun terme péjoratif. Ce peuple chrétien qui a surmonté l'an 1000. Alors, vous savez, l'an 1000, c'était prévu comme quelque chose de cataclysmique,
monde.
La fin du monde. Bon, il y avait toujours ça
ouais.
qui était présent. Ces paysans, ces artisans entendent le discours dans leurs églises. Les moines et les sœurs l'entendent dans leurs monastères. Et à côté... Et finalement, juste avant, il y a un grand départ de tous ces gens-là, mais sans aucune organisation.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons marquer une pause musicale et nous allons reprendre dans quelques instants. Je suis toujours avec Patrick Néolas et nous lisons, si je puis dire, en commentant son premier ouvrage, Vers le ciel, le périple du pèlerinage. Alors, vous avez expliqué, Patrick Néolas, comment s'était passé et pourquoi il y a eu les croisades, la première croisade. Et effectivement, tout le monde va partir, les barons, comme vous le disiez, mais aussi le peuple et même les enfants. Et je voudrais lire ce passage de la page 24, justement, ces deux enfants, Ancelin et Guillaume. Je lis, page 24. Pour Ancelin et Guillaume, quelle découverte et émerveillement! Tant d'hommes dans ce camp, bien plus qu'ils n'en avaient jamais vu. Des femmes, des hommes et quelques enfants de tout le Languedoc, accompagnés de l'arche de Noé, des chats, des chiens, des montures de toutes sortes, de l'âne portant fièrement sa croix, de Saint-André au puissant cheval d'armes, en passant par le docile mulet. Il passe régulièrement du temps à s'occuper des chevaux, mais aussi de Bucéphale, non la mythique monture d'Alexandre le Grand, mais le mulet facétieux de père Johann Guillaume, qui veille jalousement sur Vulcain, le beau destrier gris de son père, un cheval d'exception sur lequel il a perfectionné son art équestre. Donc, dans ce passage, on voit que même les jeunes enfants font partie de ce périple, de ce voyage, sans savoir vraiment où ils vont, c'est bien cela. Ouais, ils savent, mais ils ne connaissent absolument pas.
Non, personne ne se doutait de la durée ni de la traversée.
C'est ça.
Alors, ce passage est à Narbonne, c'est une ville que je chéris beaucoup.
Mais oui, c'est pour ça qu'on y a...
Et puis également, ce passage m'intéresse parce que je suis cavalier d'une famille de cavaliers. Donc j'ai toujours un petit clin d'œil envers nos amis les chevaux. Pour revenir à l'histoire de cette croisade, à vrai dire, ils ne savent pas s'ils vont prendre la mer ou s'ils vont effectuer le périple par terre.
C'est ça.
On ne sait pas. Oui. On ne sait pas. Et finalement, Raymond Tout. Alors, je trouve que cette partie de la croisade correspond à celle des seigneurs occitans. Et Raymond de Toulouse s'aperçoit assez rapidement qu'il ne peut pas transporter tous ces hommes et toutes ces femmes par voie maritime. Donc finalement, on va passer par Lyon, les Alpes, l'Italie, ce qui correspond à l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire la côte dalmate. Puis on va passer un peu à l'intérieur et puis arriver jusqu'à Constantinople. Ça, c'est le parcours des seigneurs occitans. Les barons du Nord vont passer par la Bavière, l'Autriche, et puis rejoindre la même route. Les Normands suivront à peu près la même chose. Si ce n'est que certains iront jusqu'en Italie, jusqu'à Bari, et puis traverseront la mer avec plus ou moins de chance. Vous dire aussi, on a parlé tout à l'heure des gens qui n'étaient pas armés. Alors, ces gens qui n'étaient pas armés, ils répondent aussi à un autre personnage important qui s'appelle Pierre l'Ermite. Mmh. Alors, Pierre l'Ermite, il ne pouvait pas aller dans toutes les églises, mais Pierre l'Ermite a participé à ce fort élan. Malheureusement, cette partie de la croisade n'a pas été encadrée. Et une partie de ces participants, notamment en Allemagne, ont commis des exactions sur des juifs en Allemagne, notamment. Mmh. Et puis, ont été assez pénibles en Hongrie. Et puis à Constantinople, à tel point que l'empereur s'en est débarrassé. Les a fait traverser rapidement avant la croisade armée. Et ces malheureux ont été décimés par les Turcs à quelques centaines de kilomètres de Constantinople.
Oui, parce qu'il faut bien dire qu'il y a des batailles, des combats continuels, en fait.
Oui, oui, puisque les Turcs présents en Asie mineure et un peu plus loin ne veulent pas, évidemment, laisser passer cette horde.
Mais oui.
Ils considèrent que c'est une invasion.
Oui.
Donc, hors de question de laisser passer ces gens-là. Mais, par chance pour nos amis chrétiens d'Occident, il y a encore présents sur ces terres des chrétiens d'Orient, notamment des Arméniens, qui vont aider fortement la progression, soit sous forme de guide, soit sous forme d'appui également relativement mesuré au niveau militaire.
Oui, parce qu'il faut aussi parler des femmes. Les femmes ont un rôle important dans votre ouvrage. Alors, expliquez leur rôle.
Alors, normalement, elles n'auraient pas dû être présentes, mais il se trouve... Alors, vous savez, il y avait, avec chaque expédition militaire, il y avait ce qu'on appelle des ribaudes, c'est-à-dire
oui.
Des femmes un peu particulières,
légères,
bon, ça fait partie de la vie. Et puis également d'autres jeunes femmes ou d'autres femmes qui ont accompagné, en nombre réduit, les croisés. Et notamment dans le roman, mais j'en ai mis deux.
Voilà.
Voilà, j'ai mis Anissa, qui est une...
Très sympathique.
Anissa, qui est une jeune juive de Béziers, qui est en recherche de, par rapport au divin, qui est très, qui aime beaucoup la science, qui est très pétulante.
C'est elle qui va être le médecin, en quelque sorte.
Qui va être le médecin, qui va s'occuper d'aider, de par la connaissance de sa communauté, qui est assez vive comme jeune fille, et puis qui défend les femmes par rapport aux hommes, qui sont des fois un peu rustres. Elle va évidemment, petit à petit, tomber amoureuse de Guillaume.
Voilà.
Et puis son...
Je crois qu'il y a un peu d'amour aussi dans votre ouvrage.
Et son ami Anceny, lui, il va être attiré par une jeune fille complètement différente. Lucia, ou Lucia en occitan, qui est une Toulousaine, une rousse aux yeux verts, très très volontaire. Et,
On a l'impression que vous les connaissez. Vous avez eu des modèles
Oui, j'ai eu des modèles. Certains ou certaines se reconnaîtront.
Sûrement.
Et puis, oui, Toulouse aussi, parce que c'est la ville du comte. Et puis, je voulais évoquer cette jeune fille toulousaine, qui est la fille d'une sorcière, entre guillemets, qui était brûlée. Enfin bon, voilà. Donc, également un aspect féminin. Et puis, également... Au fil de l'ouvrage, un autre personnage qui s'appelle Ivan, qui va être soigné, tombe amoureuse d'une belle grecque qui s'appelle Calista.
Alors peut-être pouvez-vous compter l'arrivée à Antioche.
Alors Antioche, finalement, il a fallu presque 2 ans pour Antioche. Arrive devant cette ville avec 400 tours, avec aucun matériel de siège, et ça va durer très 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 longtemps. Une partie de la troupe va même en arriver à mâcher les cuirs de ces différentes lanières pour arriver à assouvir sa faim. Finalement, grâce justement à un chrétien présent à Antioche, on arrive par ruse à rentrer dans la citadelle et Antioche est prise. Mais que pour quelques semaines, parce qu'une énorme armée de secours arrive.
Oui.
Beaucoup plus importante que l'armée présente. Et là, avec l'aide d'Adhémar, c'est le légat du pape, mais ce n'est pas un évêque qui passe son temps dans les églises. Il passe beaucoup de temps à cheval. C'est un chevalier évêque, on pourrait dire. Et avec une manœuvre audacieuse des Normands. Alors les Normands sont la force de frappe de la chrétienté. Une cavalerie très lourde. Ces Normands vont écharper l'armée de secours. Et puis, par un mouvement tournant avec notre Adhémar, qui porte fièrement la bannière de la Sainte Vierge du Puy, par un mouvement tournant, ils vont gagner la bataille et Antioche va être prise.
C'est ça.
Voilà,
ça, c'est
définitivement.
C'est un point très important dans cette croisade.
Oui.
Et ça permet aussi aux gens de commencer à respirer un peu.
Oui, et puis Antioche, c'était un des patriarcats à l'époque des débuts de la chrétienté, c'est aussi un symbole.
Et ils sont combien à peu près à ce moment-là?
Ils sont, je dirais, 20 000 peut-être.
20 000,
voilà, entre 10 et 20 000.
Une grosse ville, quoi.
Voilà, c'est pas énorme.
Non.
C'est pas énorme, mais la stratégie guerrière menée par les Normands, si vous voulez, ça correspond un peu aux blindés de maintenant, fait que les Turcs ne résistent pas à ces assauts de cavalerie lourde.
Bah oui. Et la foi des gens fait beaucoup aussi. Ça, il faut peut-être le souligner.
Oui, la foi des gens, la foi de ces gens-là. Et puis également, ils ont tellement souffert pendant 2 ans qu'ils ne se voient pas faire demi-tour. La foi et l'ambition, parce que certains, évidemment, notamment, et je lance la pierre à personne, notamment nos Normands, Italiens et Siciliens se disent, bon, on va également avoir d'autres fiefs. Donc, une partie des barons pense également à l'après-prise de Jérusalem.
Oui, mais ils n'y sont pas encore.
Ils n'y sont pas encore, il leur reste encore un moment à passer jusqu'à ce qu'ils arrivent au mois de juillet 1099, c'est-à-dire presque 3 ans après, ils arrivent enfin à voir la ville sainte.
Oui.
Notamment le dôme du rocher avec, alors, avec là, les mosquées.
Ah, voilà, alors racontez, parce qu'ils n'avaient jamais vu de mosquée.
Non. Non, non, il, aussi belle, il n'en avait jamais vu, puisque pas la mosquée Al-Aqsa, mais l'autre du Dôme du Rocher était dorée.
Voilà. Et alors, ils sont très, très étonnés.
Oui, ils sont étonnés, et puis ils arrivent devant la ville qui leur a été décrite dans tous les sermons.
Bien sûr.
La ville sainte.
Oui.
C'est le but.
C'est le but, oui. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans votre ouvrage, c'est qu'il y a beaucoup de cartes. Comment avez-vous fait pour trouver toutes ces cartes ?
Alors, d'abord, je les ai trouvées sur divers ouvrages, et puis après, je les ai retracées à la main. Volontairement, il y a des petits défauts, parce que je voulais que les gens voient que je l'avais fait à la main.
Voilà, parce qu'on se rend très bien compte, justement, comment est le trajet.
Oui.
Parce que c'est ça. En fait, quand on part de Normandie et qu'on arrive à Constantinople, c'est quand même un grand changement.
Oui, c'est un grand changement, et... Donc ils vont prendre Jérusalem, je le décris.
Oui.
Alors ça se passe... C'est difficile.
Oui.
La prise de Jérusalem est suivie d'un certain nombre de massacres.
Oui.
Et qui seront reprochés d'ailleurs, hein, qui seront reprochés par les auteurs musulmans. Mais il faut se mettre à la place de ces gens-là qui ont souffert pendant 2 ans. Il y a parmi eux des gens tout à fait chrétiens et tout à fait tolérants, et puis d'autres personnes qui vont piller, voler, violer, etc.
Oui, parce que, alors ce que vous pouvez aussi nous expliquer, c'est qu'en fait, ils découvrent des cachettes.
Oui.
Alors expliquez-nous cela, parce que tout d'un coup, ils peuvent trouver de l'or.
Oui, on peut trouver, alors outre l'or, on a trouvé par exemple, ils trouvent par exemple des poutres qui avaient été cachées... par des envahisseurs qui avaient été cachés et qui ont permis de fabriquer des machines de siège. Et puis, il y a aussi la découverte de différents symboles.
Mm-hmm.
Alors, comme, par exemple, une partie de la lance, la Sainte Lance, qui était trouvée à Antioche, donc qui permettait de galvaniser un peu les croisés.
Voilà. Oui. Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que déjà, vous avez le livre 2 ? Parce
oui.
que ça, c'est le livre 1, le périple. Ah, il est écrit ?
Non, il n'est pas écrit. Je suis en train de l'écrire parce que ça me prend du temps.
Oui.
Et alors, le tome 2, ça s'appelle Une terre occitane.
Oui.
Parce que, comme les autres barons, Raymond de Toulouse va essayer de créer un espace qu'il va conquérir, qui s'appellera plus tard le comté de Tripoli.
Ah oui.
Hein, il adore. Oui. Il est passé par cette ville, il n'a pas pu la prendre, il souhaite la prendre.
Eh bien, je rappelle, chers auditeurs, cet ouvrage de Patrick Néolas, Vers le ciel, tome 1, Le périple. Un grand merci à vous et j'ai hâte de vous recevoir pour le second volume.
Merci Christiane Bain et merci à la radio présente ici.
À bientôt.